I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Tu préfères chanter tous les jours, toute la journée, pendant un an, avec ou que Maxwell Sheffield, ton chien, ait la parole avec la voix de Jean-Marie Vigard et raconte que des blagues pas très woke?
C'est pas facile quand même.
Attends,
hein.
Laisse-moi réfléchir, mais parce que... Mais l'homme, il y a bien d'autres choses.
Donc tu préfères que ton chien ait la voix de Jean-Marie Bigard et qu'il raconte que des blagues toute la journée?
Il pourra pas dire autre chose que des blagues? La queen interview. Je vais te dire un truc, franchement, le livre de Jean-Marie Bigard est hyper inspirant.
Eh ben, bienvenue dans la queen interview. Hello à tous et bienvenue dans la Queenterview. La Queenterview, qu'est-ce que c'est ? C'est un podcast d'interview libre, ouverte et inclusive qui vous ouvre les portes du monde merveilleux des artistes queer. Drag queen, drag king, drag queer, club kid et plus encore. Ici, on parle vie de drag, vie out of drag, de construction artistique, de processus créatif. Ah oui, et on digresse aussi. Je suis toujours... Et je suis toujours aussi curieux. Et pour ce nouvel épisode, j'ai décidé d'inviter une artiste surprenante qui a fait de sa voix une arme d'affection massive. Elle est la preuve que le drag est infini. C'est une chanteuse, femme, cisgenre, hétérosexuelle, mais pas que. Ah non, c'est tout un programme. Bienvenue pour ta Queenterview, Petra.
Hey!
Je suis ravie d'être invitée pour cette Queenterview. Merci beaucoup de me recevoir.
Dans un premier temps, avant de parler de Petra, j'aimerais bien parler avec Marlène.
Elle est là également.
Pour commencer, qui est Marlène? C'est quoi un peu son parcours avant de rencontrer Petra? T'as eu toujours ce goût pour la musique, ce goût pour le chant depuis toute petite?
Alors moi, c'était plutôt le théâtre. Je voulais vraiment être actrice. J'ai toujours voulu être sur scène. Ça a été une évidence depuis toujours. Mais c'était vraiment plus le théâtre, la comédie. Jusqu'à ce que ma mère me dise que pour être actrice, il fallait se mettre toute nue devant les caméras.
Ah, je ne savais pas.
Moi non plus. La pudique adolescente que j'étais n'était pas prête à faire ça. Je me suis dit, je faisais du piano, je voulais faire de la musique plutôt.
Donc, c'est-à-dire que pour devenir actrice, donc, il faut se mettre toute nue.
Voilà, sachez-le.
Non, mais ouais, elle est faite pour ça, cette Queenterview. Elle est faite pour en apprendre tous les jours. Donc là, on vient d'apprendre une nouveauté. Mais quand ta mère, elle te dit ça, c'est à quel âge? Et du coup, est-ce qu'il y a un monde un peu qui s'effondre pour toi où tu te dis... Faut que je pense à autre chose parce que j'ai pas envie d'être à poil.
Pour le coup, c'est ça qui se passe. Moi, quand j'ai découvert le théâtre quand j'avais 12 ans, club théâtre, de mon établissement scolaire. Et j'étais fascinée par les actrices. Moi, je trouvais toutes mes inspirations. Alors à l'époque, j'étais Jane Seymour et Fran Drescher. J'avais pas encore découvert Meryl Streep à l'époque, mais c'était des femmes qui me faisaient rêver. Je trouvais que c'était des exemples. Et je rêvais de ça. Et donc, un jour, ma mère me dit ça. Elle me dit, mais tu veux être actrice, d'accord, mais va falloir que tu te mettes toute nue devant les caméras.
Non, ça aide à avoir une construction plutôt intéressante, du coup. On s'est dit, bah tiens, je vais pas me mettre toute nue et je vais peut-être chanter et me mettre à nu différemment.
C'est ça, mais pour le coup, des années plus tard, je te parle de ça il y a peut-être, je sais plus, 5-6 ans, j'étais prise sur une comédie musicale et au moment où de signer le contrat, on me dit qu'il y aura une scène où je devrais être topless, seins nus. J'ai pas réussi à m'y résoudre. J'ai pas signé le contrat et j'ai pas fait ce spectacle. Donc comme quoi, ça m'a quand même un peu toujours poursuivi, cette histoire.
Bye bye, le théâtre, la comédie pour le moment, le chant, le cabaret, ça arrive un peu de quelle manière ?
J'ai commencé la musique à 4 ans, donc ça a toujours été dans ma vie. Et c'est vrai que le jour où je prends conscience de ça, mais alors je me jette dans la musique, quoi. Je passe mes journées à faire du piano. La seule chose qui m'intéresse, c'est écrire des chansons. Je monte le club musique de mon lycée. Je monte mon premier groupe qui s'appelle Such à l'époque. On fait des tremplins. Mais c'est vraiment, j'ai fait un 180, quoi. De ne faire que du théâtre, je n'ai fait que de la musique. J'écrivais, je faisais que ça.
Et quand tu trouves cette passion-là, ça te tient à cœur ?
Bah oui, d'autant plus qu'à cette époque-là, je dois avoir 14 ans. C'est l'année où les Hanson débarquent à ce groupe.
Mbop.
Exactly. Donc, bon, bah déjà, évidemment, je tombe amoureuse de leur physique. Hein. Les cheveux longs, blonds, ça m'a toujours fait quelque chose. mais surtout, ils ont mon âge. Ils font du piano. Enfin, un des trois fait du piano, donc c'est mon instrument, et ils font de la pop. Et donc là, je me dis, mais attends, je peux vraiment faire quelque chose avec ça. Quelques années après, je vais vivre aux États-Unis. Je ne choisis pas l'état où je me rends, je choisis la région, et puis il y a une famille dans cette région qui choisit de m'accueillir.
Comme une sorte de jeune fille au père, c'est ça ?
Un peu différemment, puisque là, vraiment, je retournais au lycée. Donc, c'était vraiment une famille qui m'accueillait pour que je vive avec eux. Et voilà, une famille d'adoption okay. pour mes études. Et il s'avère que je découvre, un mois avant de partir, que cette famille sera en Oklahoma, l'état d'où viennent les Hanson. Donc là, je me dis, mais non, c'est pas possible !
Tout est lié.
Que j'ai rencontré là-bas d'ailleurs.
T'as rencontré les Hanson ?
Yes !
Tu leur as fait bop ?
Oh, je leur ai fait beaucoup plus que ça.
Bon, je ne veux pas savoir. Tout bien réfléchi. Moi, je m'arrête à bop. Donc, t'as vécu aux États-Unis longtemps ?
J'ai vécu là-bas pendant un an. J'ai fait ma terminale. Les gens qui m'ont hébergée à l'époque, c'est devenu comme ma famille. Donc j'y vais tous les ans, régulièrement.
Et ensuite, tu rentres en France. Là, on va aller peut-être un tout petit peu plus rapidement sur la suite. Mais comment tu te dis, tiens, j'ai envie de participer à The Voice ?
Quand je rentre de ma vie aux États-Unis. Là-bas, j'étais dans un lycée, ce qu'on appelle de performing arts, donc vraiment pour les gens qui se prédestinent à ce genre de carrière. Donc j'ai tous les jours des cours de théâtre, de chorale, de chant, etc. Et donc, bon, voilà, je sais que je rentre en France et que c'est ça que je veux faire. Donc j'intègre une école qui s'appelle les Ateliers Alice Donna pour apprendre à écrire des chansons. Et puis, bon, de fil en aiguille, je monte également mon groupe de rock. Enfin, ça y est. et puis on tourne, on fait plein de concerts, on sort un album et impossible de réussir à signer. Je chante en anglais à l'époque et c'est vraiment le truc qui revient tout le temps. Non, mais en France, on peut pas chanter en anglais. Et donc, un moment de guerre lasse, c'est l'époque où The Voice démarre et on me propose de participer à la saison 2. Et je me dis, si je peux participer à la saison 2 en tant que représentante de mon groupe, faisons ça. C'est pour ça que je participe à The Voice. C'est vraiment pour mettre un coup de projecteur sur mon groupe à l'époque.
Et donc, tu participes à The Voice.
Yes.
Et cette expérience, qu'est-ce qu'elle t'a apporté ?
Elle a changé ma vie parce que... déjà, je participe parce qu'il y a Louis Bertignac dans le...
Bonjour, Maxwell.
Qu'est-ce que tu nous embêtes ?
Moi, je t'ai accepté, Maxwell, OK ? Ta maman, elle m'a dit, ça te dérange si je vais avec Maxwell ? J'ai dit non, ça me dérange
ouais,
pas.
Ouais, d'habitude, t'es pas chiant comme ça. T'es un peu chiant.
C'est vrai que peut-être que je l'idéalise un peu, ce chien, au final.
Au bout d'un moment, calmez-vous.
Vous êtes hystérique, Maxwell.
Merde !
Tu fais The Voice parce que il y a Louis Bertignac dans les coachs.
Exactement. Ça, c'est ce qui fait que je me dis, attends, je fais ça pour promouvoir mon groupe de rock. Il y a The Ultimate Rocker. En plus, moi, la guitare, m'en laisse tomber. Téléphone, le groupe de mon adolescence. Bref, j'y vais pour ça. Et puis, donc, j'ai de la chance puisqu'il se retourne. Je me retrouve dans son équipe. Lorsque cette saison-là se termine, donc c'était la saison 2, j'ai la surprise de recevoir un coup de fil de Louis Bertignac qui me dit, je voudrais savoir si tu voudrais bien me donner des cours de chant.
J'imagine que ça doit faire quand même un petit... Ok, donc je vais donner des cours de chant à Louis Bertignac.
J'y ai pas cru. Moi, franchement, j'ai cru que c'était quelqu'un genre Michael Gregorio, tu vois, qui faisait...
Une blague.
Ouais. Mais avant de lui donner le premier cours, j'ai dit, excuse-moi Louis, mais là, faut quand même que je te pose une question. Mais pourquoi tu me demandes à moi? Parce que bon, j'étais une jeune prof. Puis bon, lui, avec les contacts qu'il a, il pouvait vraiment demander à qui il voulait. Et là, je me souviens, j'étais derrière le piano, il est assis à côté, il me regarde, il fait « Pourquoi pas ?» Bon, face à un argument pareil, qu'est-ce que tu veux dire ?
Non, mais pourquoi pas, c'est parfois une très bonne raison.
Je sais pas, il devait se sentir en confiance avec moi, puis moi je me sentais en confiance avec lui, et quelques temps après, on propose à Louis de devenir coach sur The Voice Kids. Il me demande d'être la coach de son équipe, donc il va coacher les enfants de son équipe pour toutes les étapes qu'ils font dans The Voice. De talent face caméra à The Voice, je passe coach vocal derrière les caméras. Donc c'est assez fou.
Dans la Quinterview, c'est difficile de tout faire tout seul. Et du coup, j'ai embauché une assistante éditoriale qui m'aide à préparer les interviews, qui va avec ses parents, Alice et Gilles, regarder un peu sur les réseaux sociaux, sur ton profil Instagram, et qui du coup, a des questions à se poser. D'ailleurs, on va la saluer. Bonjour Mia.
Bonjour, je m'appelle Mia. J'ai 4 ans. Normal. Mon plat préféré, c'est des plats italiens. C'est que de la pizza.
Et toi, Marlène, c'est quoi ton plat préféré?
C'est comme Mia, c'est les plats italiens, mais moi, c'est les linguine alle vongole.
Donc, c'est que des linguine à la vongole?
Si.
Ok. C'est avec les
avec les poids lourdes. Avec les poids lourdes.
Et nous, comme on n'est pas lourdes, on va continuer cette interview.
C'est quand la première fois que tu es devant une drag queen alors que la dernière fois, c'était pas une drag queen?
C'est la question. Vous avez 4 heures. C'est quand la dernière fois que t'étais drag queen alors que la première fois, t'étais... Enfin, qu'est-ce que t'as compris?
Mais j'ai parfaitement compris ce que Mia demande. Merci pour cette question. La première fois que je suis devenue officiellement drag queen, que j'ai créé le personnage de Petra, c'était en 2018.
Une nouvelle question, Mia.
Pourquoi t'es devenue drag queen?
Mia, tu vas me faire pleurer tellement tu es sage dans tes questions. Je suis devenue drag queen pour réussir à remonter sur scène. Après, il y a aussi derrière ça des heures et des heures passées sur un canapé de psy à essayer de comprendre qui on est, pourquoi, comment, quoi qu'est-ce.
C'est là où tu vas trouver Petra et qui va t'aider à te sortir de ça.
Dans le cabinet du psy.
Incroyable. Bon alors attends, j'ai trop hâte, mais on va y revenir après. On a trouvé Petra chez le psy. Alors qu'en général, on trouve Petra et après on va chez le psy. C'est ça qui est assez impressionnant. Mia, question suivante.
Est-ce que c'est difficile de mettre des perruques avec de la colle?
Mais elle s'y connaît grave, Mia. Alors c'est pas forcément difficile, c'est un petit coup de main à prendre, c'est comme tout en fait, à force de s'entraîner, ça devient de plus en plus simple.
Mia, est-ce qu'on a une autre question?
J'en ai plus d'autres, je suis désolée.
Tant pis, au moins.
C'est pas grave,
non,
Mia.
Mais au moins c'est cash, elle dit les choses, Mia. Bon gros bisous, Mia, à bientôt.
Gros bisous.
Elle nous envoyait des bisous. Eh ben, merci beaucoup Mia, merci pour tes questions et merci à ses parents Alice et Gilles de lui avoir permis de se poser toutes ces questions. On a commencé de parler un petit peu de Petra, on a commencé un peu d'en dessiner un peu les contours. Donc tu disais que Petra, tu l'as trouvée chez le psy.
Oui monsieur, absolument.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que, comme je te dis, à cette époque-là, voilà, je suis coach vocal à 400%, je ne fais plus que ça de ma vie. Pour autant, moi, il faut savoir que j'ai commencé à travailler avec un psy après les attaques parisiennes en 2015. Et là, en fait, il y a tout plein de choses qui se démêlent dans ma tête. On pose un peu tout à plat. Et puis, de fil en aiguille, je me rends compte que j'ai pas fini en fait ma vie de chanteuse, ma vie sur scène. C'est évident que c'est encore là. Et on en parle avec mon psy, mais je dis à mon psy aussi que je suis pas capable. Je suis pas capable. Je suis plus capable de monter sur scène, parce que monter sur scène, c'est être vulnérable. Ce qui n'est absolument pas un défaut ou quoi que ce soit, mais c'est mon humble avis, mais pour être vraiment sincère, vrai, il faut être vulnérable. Et j'ai trop peur de ça. J'avais vraiment cette sensation, alors c'est pas pour parler comme Alain Delon à la troisième personne, mais à l'époque, j'avais besoin de protéger Marlène, quoi. Mon groupe de rock qui avait été mon projet pendant 8 ans, qui finalement, on se dit, allez, on arrête, c'est trop. On n'arrivait plus à avoir l'énergie de continuer. Maintes autres projets qui, pareil, se terminent un petit peu en eau de boudin. Et là, je suis trop heurtée. J'ai plus envie de faire tout ça. Et pour autant, clairement, j'ai toujours ce besoin de créer, toujours ce besoin de monter sur scène. Et donc, c'est terrible, quoi. Je pleure, je ne sais pas comment me sortir de ça. Et puis, il me semble que c'est l'époque où RuPaul's Drag Race arrive.
C'est le moment où ça doit arriver sur Netflix, je pense, où c'est de plus en plus, ça se voit de plus en plus.
Ouais, exactement. Mm. Et donc, je tombe là-dessus et je renoue avec mes premières amours, hein, les transformistes, etc. Je renoue avec cet art des dragues. Et je renoue avec le concept premier du drag, c'est moi tel que je suis, mon identité du quotidien, elle est heurtée, elle est blessée. Donc je vais me créer un alter ego ultra flamboyant qui me permettra juste d'exister, de dire ce que j'ai envie de dire et de pouvoir exprimer ma créativité et point. Et là, je me dis, voilà. Et c'est ça qu'il faut que je fasse.
Devenir drag queen.
Sauf qu'à ce moment-là, je me dis, mais je suis pas un mec. Et je suis... Donc, parmi mes idoles, il y a également Dolly Parton. Et Dolly Parton avait dit, si j'étais née un homme, j'aurais été une drag queen. Et j'arrête pas de penser à cette phrase. Et je me dis, punaise. Encore une fois, il vaut mieux être un mec, quoi. Et puis à ce moment-là, je me dis, mais c'est quand même incroyable que même pour créer l'illusion d'une femme, il faille être un mec. Et là, je me dis, fuck this, I'm gonna be a fucking drag queen. Et évidemment, il me faut du temps, hein, parce que ça prend énormément de temps. Donc, je commence déjà par renouer avec le maquillage. Donc, je travaille tous les jours pour parfaire les techniques. J'apprends les perruques. Je cherche mon style avec des stylistes. Quelle va être ma voix? Je commence à écrire aussi beaucoup mon spectacle, sans savoir pour l'instant que ça va être un spectacle. Je sais pas trop, tu vois. Je trouve le nom.
Comment tu trouves le nom?
Alors, je trouve le nom parce que moi, je suis franco-allemande. Et quand j'étais petite, je vivais dans les Vosges, dans un tout petit village où il n'y avait pas de magasin de jouets, etc. Et mon père, qui travaillait en Allemagne, me ramenait des jouets d'Allemagne souvent. Et il me ramenait des poupées Barbie, mais de la marque allemande Petra. Qui est donc la Petra du pauvre, hein. La Barbie du pauvre.
Petra, c'est la Petra. Barbie du pauvre. Ah ouais.
La Barbie du pauvre. Mais toujours dit que c'était pas des vraies Barbies. Et je me souviens de ça et je me dis, vu que je vais pas vraiment être une vraie femme quand je suis en Petra, mais plus une sorte de créature, un truc un peu fantasmé, je me dis, si les femmes sont des Barbies, ma drague sera une Petra.
Quand tu trouves ta Petra,
ouais.
Quand tu trouves ton style, ta voix, que tu arrives à justement mettre toute ta créativité, toute ton énergie artistique là-dedans, qu'est-ce qui se passe? pour toi? Est-ce que ta vie aussi, comment ça peut déjà rien qu'à changer le fait d'avoir ce projet artistique-là?
Mais en fait, tu sais, je pense que tout le monde peut avoir cette sensation parfois où tu te sens bloqué. Tu sais que ça va pas, et tu sais qu'il faut que tu changes, mais t'as l'impression que partout où tu regardes, c'est des murs. Et ça se resserre, ça se resserre, ça se resserre. Et le jour où, déjà, je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse, qu'il faut que je crée ce personnage, ça, je pète un mur. Et quand je la trouve, que petit à petit, je trouve aussi des gens qui mettent dans mon projet, etc., je pète un deuxième mur. Je fais les photos, j'enfile pour la première fois sa perruque, ses fringues, je pète le troisième mur. Je me retrouve à aller travailler à Londres sur un projet qui n'a absolument rien à voir. Et puis, il y a quelqu'un qui me dit mais tu sais, moi, je m'occupe d'un théâtre ici, machin. Si jamais tu as un projet, j'aimerais bien te faire jouer ça. Et puis, à ce moment-là, j'avais ce spectacle, tu vois, mais c'était embryonnaire encore,
ouais,
à ce moment-là.
C'était en construction.
Et il me dit, je crois on doit être peut-être en octobre, novembre 2018. Mon hochement de tête, il prend ça pour un « Ok, je te trouve une date ». Et il m'appelle et il me dit « Bon, bah c'est bon, bah, t'as avril, c'est, la salle est bookée pour toi ». Je dis « What the... Ouais ».
Eh ben, merci beaucoup.
Donc, c'est parti. J'écris le spectacle, là, pour le coup, en anglais. Et là, je pète le quatrième mur, en fait. Et là...
On te prend pour ce que tu es, et pour qui tu es, toi, et pour ton anglais, et pour tout ce qui te construit, quoi.
Bah, finalement, en créant un personnage où beaucoup de gens me disent « Mais attends, t'es une femme, pourquoi tu te transformes en femme ? C'est complètement ridicule. » Bah, en créant ce personnage, j'ai jamais été plus moi qu'en faisant ça. Et du coup, bah, en étant à 100% moi... Et bien là, on me propose toutes les choses que je suis. On me propose d'aller jouer en Angleterre, mon spectacle en anglais. Enfin, voilà, quoi. Et tu sais, tout le temps, on entend ces conseils avec les jeunes artistes qui disent « Donne-moi un conseil, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Quel est ton conseil pour eux ?» Puis tu as toujours cette phrase de « Sois toi-même », qui, moi, pendant tant de temps, n'avait pas de sens. Et bien là, voilà, ça, c'est la définition de « Sois toi-même ».
Et la première fois que tu te retrouves en Petra, sur scène, comment tu t'es sentie ? Est-ce que t'avais une petite boule au ventre ? Est-ce que t'avais peur ? Ou est-ce que t'étais excitée de montrer ton personnage ? Il se passait quoi dans ta tête ?
Oui.
Mais c'était pas une question qui se répond oui.
Bah parce que c'était vraiment tout ça. J'étais absolument... terrorisée parce que déjà je joue en Angleterre qui pour moi est vraiment un pays avec une scène drag énorme, donc je me pose toutes les questions évidemment de légitimité, donc j'avais très très peur. Je peux te le dire clairement, je n'aurais jamais réussi à faire ce spectacle en Marlène, et donc c'est parce que j'avais Petra que la peur s'est transformée en excitation et en envie.
Petra, elle a changé ta vie?
Oui. Ah bah oui, oui, oui. Ah oui, oh là là. Petra, elle m'a permis de... en commençant par ma poitrine. J'ai toujours eu de la poitrine et on m'a toujours fait comprendre que c'était limite vulgaire, fallait cacher, faut pas montrer. Donc j'ai toujours, toujours caché ma poitrine, mes formes, etc. À la minute où je deviens ce personnage... Je travaille avec le premier styliste et la première chose que je dis « Je veux un corset où on voit mes boobs. » En ce moment, j'ai le bonheur de pouvoir travailler en tant que drague au Paradis Latin. Et j'ai des costumes qui sont « revealing ». Et puis, je joue avec mes partenaires sur scène. Et moi-même, tous les soirs, quand je rentre chez moi, je me dis... Mais jamais j'aurais été capable de faire ça en Marlène. Ça, je ne l'aurais pas fait. Mais pourtant, c'est Marlène qui le fait. C'est juste qu'à partir du moment où je suis en Petra, je n'ai plus mes barrières que j'ai en Marlène. Pourtant, Petra est Marlène. Hein, c'est juste une version augmentée.
C'est aussi ça la magie du drag aussi. Quand tu es en drag, c'est-à-dire quand tu es boosté pour être... 100%, 200%, 3000% toi, et que d'un coup on te regarde, que tu deviens un peu intrigant, qu'il y a une notion aussi un peu de respect. Ce sentiment-là est aussi un sentiment hors du commun, j'imagine.
Oui. J'aime bien le fait que tu aies utilisé le mot respect parce que moi, pendant un temps, j'entendais souvent que les drag queens faisaient peur. Mais je pense pas que ce soit de la peur que... Enfin, après, je veux pas parler pour toutes les drag queens, j'en sais rien. Mais en tous les cas, moi, c'est du respect que j'ai toujours ressenti à l'égard des drags parce que je trouve ça formidable, cette flamboyance, en fait. Moi, quand je suis en drague, je me sens belle. Mais pas une beauté genre « Ah, mais comment je suis bonne dans le miroir, tu as vu un peu ?» C'est pas du tout ça, c'est je me sens belle, quoi. Mais je me sens intouchable. Mais j'ai...
Puissante.
Ouais. Et je vais même te dire un truc. J'ai l'impression que personne ne peut m'atteindre dans mon âme. Parce que moi, je pense qu'on récolte ce que l'on sème et que quand tu te sens fort, exactement là où tu dois être, eh bien, c'est ce que tu renvoies aux autres. Et donc, personne ne va avoir envie de te dire « c'est bien, c'est dommage que tu sois grosse, quoi ». Vu que tu es à 100% toi, bah voilà, this is me, t'aimes, c'est bien, t'aimes pas, je m'en fous.
Mais est-ce qu'on devrait avoir comme super pouvoir tout le monde dans la vie ?
Ben oui. Alors j'essaye, parce que RuPaul dit toujours que ce pouvoir que l'on ressent en drag, on peut l'invoquer lorsqu'on est out of drag. C'est ce que j'essaye de faire.
Mais c'est pas facile.
C'est pas facile, mais je ne me suis jamais mieux sentie dans ma vie qu'aujourd'hui. Bah, je me sens aussi un peu intouchable.
Et alors, j'ai une question, parce que forcément, ça va interroger le monde de manière générale, mais est-ce que c'est un problème quand on est femme, cisgenre, pas homosexuelle et drag queen ?
Oui. Oui.
C'est un problème pour qui ?
C'est un problème pour beaucoup de gens. C'est pas du tout dans un but de me critiquer. C'est juste... Enfin, t'es pas une drag queen. Enfin, je veux dire, c'est un... Qu'est-ce que t'es, d'ailleurs ? Tu vois, je veux dire, mais t'es pas une drag queen. Je veux dire, une drag queen, c'est un mec... Donc, moi, je les laisse parler. Et même parfois, je vois les gens qui commencent à s'énerver. Beaucoup dans le milieu homosexuel. Ça génère une forme de colère, presque, de dire « Mais ça, c'est à nous. Et voilà !» Ah, encore un truc qu'on nous pique, quoi.
Pourquoi ça n'appartiendrait qu'aux hommes ? Moi, je pense que c'est là le problème. C'est qu'ils n'ont pas compris. C'est qu'ils n'ont pas compris qu'en fait, le drag, c'est tout. Tu n'es pas obligé d'être jolie quand tu es en drag. Si tu n'as pas envie d'être jolie, tu n'es pas obligé d'être fine. Tu n'es pas obligé d'être très, très bien maquillée. Si ce n'est pas ça ton propos, si ce n'est pas ça ton but, on s'en fout. Le drag est fait pour être libre, ouvert et interprété par la personne qui a envie de l'interpréter comme elle a envie de l'interpréter.
Mais c'est vrai que, en fait, moi, je trouve ça assez dingue parce que pour moi, tu vois, j'ai l'impression que dans cette catégorie drag, il y a justement cette envie de faire péter toutes les étiquettes. Et c'est ça que j'ai toujours adoré dans l'univers du drag. Tu vois, moi, j'ai commencé, je travaillais avec des transformistes, donc vraiment, le cabaret français où on essaye de ressembler à des...
Faire une sorte d'interprétation.
Voilà. Genre le Snatch Game.
Genre le Snatch Game de RuPaul Drag Race, voilà. Qui est un jeu où on doit prendre les codes de quelqu'un et le rejouer et le réinterpréter, comme les cabarets chez Michou, comme... Enfin, les transformistes, à la base, c'était plus connu que les drag queens, dans le sens où voilà, on a plus l'habitude de voir des transformistes que des artistes drag.
C'est ça.
C'est deux choses un peu similaires, un peu différentes.
Bah, disons que le transformisme fait partie de l'art du drag.
Exactement.
Là, en l'occurrence, voilà, transformisme, on va personnifier quelqu'un qui existe. Donc moi, quand je travaillais dans ce cabaret-là, tous les soirs, j'étais avec Sylvie Vartan, Tina Turner, Nina Mouskouri.
Nina Mouskouri.
Nina Mouskouri, exactement, et Tina Turner.
Ah ouais. Elles sont sympas en vrai.
Elles sont sympas, elles sont un peu bitchy, je te cache pas. Elles sont un peu bitchy. Mais oui, moi, je trouve que c'est ça qui m'a attirée dans ce milieu-là, c'est que justement, on fait péter les étiquettes. Et pourtant, quand moi, j'ai créé Petra, Oui, mais t'es quoi ? Mais non, mais t'es une femme. Tu peux pas être une drag queen. Tu peux être un drag king. C'est-à-dire une femme qui va se grimer en homme. Mais tu peux pas être une drag queen. Et je me dis, mais enfin, c'est quand même incroyable. Cet art qui est né, justement, pour sortir du terreau de la haine, de l'intolérance, avec de la flamboyance, avec du beau, du fun, du « tu veux m'écraser ?» Bah regarde, je vais essayer de mesurer 2,50 m avec des talons, des paillettes, face à ton inconscience, ton inculture. Et vous venez me dire, moi, que j'ai pas le droit, mais attends, excusez-moi, mais enfin, en tant que femme... J'en connais un petit peu aussi, un petit rayon sur être écrasée sans cesse. Donc, si moi, grâce à ce merveilleux art qui est né, eh ben, je réussis à me révéler dans vos codes, mais c'est une fierté, c'est méprend. C'est, tout ça, c'est que de l'amour. C'est que de l'amour. J'ai le plus profond respect pour cet art. Je m'y intéresse depuis des décennies. Je vole rien à personne, en fait. Et donc, je te cache pas que depuis quelque temps, j'ose même plus trop me qualifier de drag queen parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes que ça contrarie énormément.
Il y a des personnes qui distribuent des badges de bonnes drag queen et de mauvaises drag queen.
Bien sûr.
Ok.
Bon, moi, je me suis retrouvée il n'y a pas si longtemps que ça dans les loges d'un cabaret avec énormément de dragues, que des hommes. Il n'y en a pas un seul qui m'a saluée. Mais je tiens quand même à dire que j'ai l'immense privilège d'avoir été adoubée par une formidable drag queen qui s'appelle Leona Winter. Et elle m'a donné énormément de force et de courage parce que elle mais n'a jamais même tiqué en fait sur quoi elle c'est un non sujet, voilà.
Et c'est ce que j'ai envie de dire, c'est un non sujet. Donc si vous aimez les dragues, point. Et puis ne jugez pas, ne prenez pas vos acquis juste en ayant regardé une émission de télévision. Intéressez-vous à la philosophie qui va autour de cet art-là et comprenez que vous serez toujours surpris. C'est ça aussi le truc. Il ne faut pas penser que c'est une boîte, une case, etc. Non, pensez que c'est encore plus ouvert, que ça va encore plus loin et que vous n'avez pas fini d'être surpris. Après, on a le droit d'aimer ou pas aimer. C'est autre chose. Mais laissons faire. Ouais. Laissons faire ce que les gens ont envie de faire. C'est quand même déjà très très bien. J'ai parfois, Marlène, faut que je te le dise, des manques d'inspiration.
Oh.
Des fois, je suis là, je me dis, oh là là, mais quelle question je pourrais poser ? Est-ce que c'est vraiment intéressant ? Du coup, comme je manque d'originalité, j'ouvre pas un livre, j'ouvre ChatGPT et je lui dis, quelle question je pourrais poser à Marlène qui ne lui ont jamais été posées. Et du coup, bah voilà, mon ami GPT est de la partie.
Oh my lord.
Bonjour Petra. Bonjour Petra.
Bonjour.
Merci. Supposons que les drag queens soient devenus les dirigeants du monde. Quel serait ton premier décret en tant que drag queen suprême ?
Alors mon premier décret en tant que Supreme Drag Queen, mon premier décret serait de ne plus genrer les vêtements. Parce qu'alors, franchement, je trouve qu'il y a tellement de choses sur lesquelles on a besoin de travailler, de réfléchir, d'évoluer, etc. Mais alors, si un mec, il a envie de s'habiller avec des talons et des jupes, si une nana, elle a envie de se couper les cheveux, la boule à Z et s'habiller comme un cow-boy, mais qu'est-ce que ça peut faire ? Les vêtements qu'on porte ne nous définissent pas. Et je trouve ça, mais d'un con ! Mon chien, tel que vous pouvez le voir présentement, a un harnais rose.
Ouais.
Et mon chien est un mâle. C'est un mâle, cet animal. Eh bien, quasiment tous les jours, je le promène. Oh, elle est mignonne, la petite fifi. Je dis, ah, mais non, c'est un mâle. Bah, pourquoi il a un harnais rose ?
Eh ouais.
Et là, je Je la regarde, je dis, mais vous êtes au coup, vous parlez d'un chien. Vous vous rendez compte quand même que mon caniche n'a pas conscience que le rose, c'est pour les filles, le bleu, c'est pour les garçons, et qu'en plus, il le voit même pas, cette couleur-là. Je dis, mais alors vous, qu'est-ce que vous êtes con ?
Ouais. C'est aussi la Quinterview est ici là pour dire que le rose est une couleur et que le vernis, c'est pour les ongles.
J'ai pas les mots pour exprimer à quel point je trouve ça stupide. Enfin, les Romains, ils portaient des jupes. Non, mais on va arrêter ça. C'est comme si on nous endormissait. Mais il n'y a pas des choses plus importantes. Mais laisser les gens s'habiller comme ils veulent, qu'est-ce que ça peut faire?
Donc, arrêtons de genrer les vêtements et laissons faire ce que les gens veulent faire comment ils veulent s'habiller.
Mais ça, ce serait mon décret suprême, quoi. T'imagines, tu te marches dans la rue et tu vois vraiment les vrais... couleur des gens, pour le coup.
Moi, je dis que ce décret de cette Queen Supreme est validé.
Thank you.
Eh bien, merci beaucoup, GPT.
Merci, GPT.
Marlène, on arrive bientôt à la fin de ma vie. Non, on arrive bientôt. Marlène, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Si demain, il y a... des personnes qui veulent se lancer en drague, des petites filles qui veulent se lancer en drague aussi. Qu'est-ce que tu leur conseilles ? Parce que moi, je vais te raconter un petit truc, une anecdote qui m'est arrivée le week-end dernier. J'étais à une viewing party à Clermont-Ferrand et j'ai rencontré une petite fille qui m'a dit « Je suis une drag queen ». Elle a 6 ans.
J'adore.
Et elle m'a dit « Je suis une drag queen ». Elle s'appelle Aventure Morningstar.
Waouh !
Et elle est complètement drag queen. Donc du coup, tu vois, je me dis, toi, aujourd'hui, qui est femme et complètement drag queen, je me dis, bah, il peut y en avoir plein, des petites Marlène, des petites Petra et des petites aventures Morningstar. Donc qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui ont envie de faire du drag ?
Bah déjà, premièrement, Aventure Morningstar, c'est quand même le meilleur nom de la Terre. Waouh ! Moi... dans le spectacle que je joue, qui s'appelle Queen is Born, je dis que Petra est à Marlène ce que Superman est à Clark Kent. C'est ma super-héroïne, en fait. Donc, mon conseil pour Aventure Morningstar, c'est de trouver sa cape de super-héroïne. Donc, moi, ma cape, je l'ai trouvée avec le maquillage, mes perruques, les vêtements. Moi, tu vois, je travaille au Paradis Latin, comme je te le disais tout à l'heure, et je me suis donné comme challenge de ne jamais faire le même make-up un soir de suite. Donc,
ça doit pas être facile.
Ouais, mais c'est tellement fun. C'est tellement fun. Hier, j'en ai fait un complètement dément. Et ça m'a pris énormément de temps pour un résultat zéro, puisqu'il ne se voyait pas sur scène.
Ah oui, c'est quand même dommage.
Il se voyait quand j'étais proche des gens, mais quand j'étais sur scène, en fait, c'était trop dans le détail, ça se voyait pas.
Loupé. Bah, faites des maquillages voyants, si vous y passez du temps. Avant de terminer cette émission, est-ce que tu as des petites recommandations culturelles ou quoi, ou qu'est-ce, ou de films, ou de séries, ou de musique, ou d'albums, ou de quoi que ce soit?
Bah déjà, premièrement, évidemment, Ingrid Michaelson, hein, qui est ça s'écrit Michaelson, Ingrid Michaelson,
voilà,
qui est une chanteuse absolument formidable, qui fait de la folk, qui fait tout elle-même, pianiste, chanteuse, arrangeuse vocale. Elle n'a jamais signé en label, donc elle a toujours fait tous ses albums elle-même, et là, elle a fait toutes les chansons de la future comédie musicale qui adapte The Notebook, le livre à la base, puis le film qui a été adapté en comédie musicale à Broadway. C'est Ingrid Michaelson qui a fait toutes les chansons. Ensuite, ben, évidemment, Meryl Streep. Meryl Streep qui, pour moi, c'est elle, la drag queen supreme.
Ouais.
Parce qu'elle, un jour, elle avait dit dans une interview... Qu'au début de sa carrière, on la mettait toujours dans une case. D'ailleurs, elle a raconté 1000 fois cette anecdote qu'elle avait auditionné pour... c'était quoi ? C'était King Kong. Et que le réalisateur avait dit en italien, pensant qu'elle ne comprenait pas, qu'elle était trop moche pour faire la jeune première. Et Meryl Streep avait toujours dit que le concept même d'une actrice... c'est de pouvoir être un caméléon. Et elle a dit, mais je vois pas pourquoi je pourrais pas jouer le rôle d'un homme. Et elle a joué le rôle d'un homme. Elle joue le rôle d'un rabbin dans la merveilleuse série qui s'appelle Angels in America. C'est une série exceptionnelle. À la base, c'est une pièce de théâtre qui a été adaptée en série et qui parle du milieu homosexuel et des années sida aux États-Unis et de comment ça, ce drame, finalement, a fait changer un peu les esprits puisque c'est... Avant, c'était caché, et là, c'était plus caché. Donc, moi, je conseille toujours tout le travail de Meryl Streep parce qu'elle est sensationnelle.
Et une petite dernière recommandation.
Et une petite dernière, évidemment, de soutenir mais ça, c'est absolument capital, de soutenir les artistes en France, dans notre pays, drague ou pas. C'est tellement important. Je sais qu'après avoir vécu ce qu'on a vécu avec le confinement, etc., on a trouvé tellement de plaisir à rester dans son canapé, à regarder les plateformes de streaming et autres. Mais il ne faut jamais oublier qu'aller voir un spectacle vivant, aller voir une pièce de théâtre, venir au Paradis Latin ou à l'Artichaut, aller dans les cabarets, voir des pièces de théâtre, des concerts.
Sortez de chez vous.
Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Et je dirais même une chose, on a quand même une chance exceptionnelle à Paris d'avoir des cabarets. Et en plus, le cabaret, c'est vraiment pour le coup quelque chose de très français. Eh bien moi, tous les soirs où je suis au Paradis Latin, je peux vous dire que quasiment 70% de la salle est étrangère. Et je connais très peu d'amis, parisiens en particulier, qui vont dans ces lieux emblématiques de la capitale, le Moulin Rouge, le Paradis Latin... Bon, malheureusement, nous n'avons plus Lido, mais chez Michou, l'Artichaut, Madame Arthur, sortez, allez voir. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est qu'une soirée cabaret et ça n'est pas racontable. Il faut y aller.
Très bien. Eh bien, c'est une très bonne chose. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire, Marlène ? Eh bien, on va y aller.
All right.
Bon, Marlène, c'est la fin de cette émission. Est-ce que ça t'a plu ? Est-ce que tu recommandes ?
Ah bah alors moi, si vous me dites si ça m'a plu de parler de moi, je suis une artiste, c'est le but de ma vie.
Eh bien, merci beaucoup Marlène et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de la Quinterview. Merci à Tintin, à la réalisation. Et en attendant le prochain épisode, likez, abonnez-vous, faites tout ce que le monde moderne a fait de vous et à bientôt pour une prochaine Quinterview. Bye.
Bye.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.